D'abord, que je vous dise qu'on ne risque rien à livrer le secret professionnel, puisque on ne livre pas le moyen de s'en servir.
Secret professionnel par Charles Danzig. Liste des ponts. Un pont, c'est la construction la plus banale et la plus essentielle du monde. Plus peut-être qu'une maison qui sert à nous protéger. Sans les maisons, il resterait les grottes. Mais un monde sans pont, qui peut imaginer quelque chose d'aussi désespérant ? Un monde sans pont, cela veut dire des fleuves qu'on ne peut plus traverser, des régions entières isolées les unes des autres. Un monde sans pont serait un patchwork de provincialisme. Les ponts sont les sourcils des fleuves. À Paris, sur la Seine, il y en a 37. Et c'est un des charmes de notre ville. On peut aller d'un côté à l'autre très facilement, très brièvement, très gaiement. Ces hémisphères ne sont pas aussi séparés qu'à Londres, par exemple, qui est plus grande et où il n'y a que 20 ponts. Les ponts sont les chameaux de Venise. Ils sont si nombreux, au-dessus de tellement de canaux, qu'il est athlétique d'y être un vieillard ou une mère de famille à poussette. On se rappelle la fameuse scène du landau dévalant l'escalier, du cuirassé Potemkin, d'Eisenstein. On pourrait imaginer une scène d'insurrection des Vénitiens contre leurs occupants au XIXe siècle où, au même moment, des dizaines de landaus chargés de bombes seraient lancés par des résistantes sur les régiments autrichiens. Les ponts sont des endroits où on échange le bien contre le mal. Par exemple, dans le temps béni de la guerre froide, béni parce qu'il y avait un seul ennemi et que d'autre part il y avait une salutaire contre-influence à la bigoterie qui s'est répandue sur le monde depuis la chute de l'URSS, les ponts de Berlin où les services de contre-espionnage s'échangeaient leurs captifs. Les ponts, ça n'est pas nécessairement sur l'eau. Mes ponts préférés sont les autoponts dans les grandes villes. Ces autoponts de béton, si beaux partout. J'aime beaucoup ceux du Caire, grâce auxquels on peut se rendre compte du contrôle de la population par la religion, car il ne se passe pas 30 mètres sans qu'y pointe le doigt un minaret de mosquée. Je raffole des autoponts de Los Angeles, où des millions de solitudes en voiture se frôlent, allant dans le même sens, on ne sait pas si c'est le bonheur ou le malheur. Je plains les autoponts de Montréal, les plus abîmés du monde occidental sans doute. C'est à cause du sel déversé par tonnes contre la neige en hiver. Il ronge le béton. J'ai de l'affection pour l'autopont qu'un ancien maire socialiste a posé dans Glasgow afin de permettre aux ouvriers d'aller travailler plus confortablement. Dans ce sens-là, les ponts, c'est le contraire du métro, l'air libre et la franchise. Les ponts, c'est beau réellement, quelle que soit la chose que le mot désigne. Je connais peu de vêtements aussi sexy que les pantalons à pont, avec leurs boutons latéraux et ce grand pan de tissu qui s'ouvre, ils sont le livre d'or du sexe. Quel est le secret professionnel de la philosophie des ponts ? Je reçois pour en parler Michel Virlogeux, un des plus grands constructeurs de ponts de France. Diplômé des ponts et chaussées en 1970, il a construit son premier pont en 1975 et depuis 40 ans, il en a construit environ 200, l'un des plus célèbres étant le viaduc de Millau en 2004. Michel Virlogeux, dans la première partie de ce secret professionnel, je voudrais que nous parlions des ponts d'un point de vue technique avant de les aborder de manière plus métaphorique dans la deuxième partie. Vous êtes ingénieur, disais-je. Est-ce que c'est le hasard qui vous a mené à vous spécialiser dans les ponts ou le goût ou un talent particulier ?
Un peu des deux. D'abord, quand j'étais très jeune, j'ai 12, 13, 14 ans, j'avais envie de construire des bateaux. Je faisais des maquettes de bateaux et je lisais des romans de piraterie. Et puis, évidemment, quand on entre en mathélème, en maths sup, en maths spé, on oublie tout le reste. On ne fait que creuser le sillon des mathématiques et de la physique. Et donc, je suis rentré à l'école polytechnique où là, j'ai été particulièrement marqué par un excellent professeur de mécanique. Et après avoir passé une année sous l'uniforme, pendant les événements de mai 68, d'ailleurs, où je gardais un pylône de télévision.
Donc vous n'avez pas fait sauter des ponts en mai 68.
Je n'ai pas fait sauter des ponts. Moi, je gardais, avec une section d'engagés volontaires, j'ai gardé le pylône de télévision de Maillé pour empêcher qu'il ne vienne entre les mains d'agités éventuelles, parce que Pompidou avait bien compris qu'il fallait que la télévision reste dans les mains du gouvernement. Donc après, je suis allé à l'école des ponts. Et là, c'était la première année, où, après 68 justement, où on a eu des options. J'ai un peu hésité entre l'aménagement du territoire, parce que mon père était prof de géographie, et l'option ouvrage d'art. Et finalement, c'est là que je suis allé. Parce qu'il y avait là aussi des professeurs tout à fait remarquables. Et c'est en grande partie les enseignants qui m'ont attiré vers les ponts.
Donc ce sont des maîtres qui vous ont
guidé. Tout à fait. Et après, dans la vie professionnelle, j'ai eu la chance d'avoir de très bons patrons, d'abord en Tunisie pendant 3 ans.
Oui,
j'ai fait la coopération volontaire, enfin civile. Là, j'ai eu un premier patron qui était absolument remarquable, s'appelait Mehmet Ali Souissi, tunisien. Puis, je suis rentré au CETRA, où on avait un grand patron, qui était Marcel Huette, qui était le maître d'œuvre du pont de Tancarville, et qui m'a très vite mis dans le bain, envoyé dans des conférences internationales, où j'ai vu les grands maîtres de l'époque, effectivement. Et ça, je dois dire que c'est une formation absolument remarquable.
Est-ce que d'ailleurs il existe, parfois il y a des spécialités ou des talents par nationalité, les Français sont meilleurs pour telle ou telle chose, est-ce que dans votre spécialité, les ponts,
ça dépend un peu des époques. Il y a eu toute une époque des grands ponts suspendus américains, d'ailleurs en grande partie construits par des Allemands et des Suisses qui avaient émigré aux États-Unis. Il y a eu une grande époque des Français avec le béton armé a été inventé par les Français.
Quand ?
Au milieu du 19e siècle, et pas par des ingénieurs d'ailleurs. Hein. Les premiers, c'était un jardinier, c'était tout à fait original, donc des gens qui ont eu l'idée d'utiliser le ciment et du grillage, des petites ferrailles, pour faire au début, ça a été les premiers, c'était des bacs à fleurs, puis des terrasses et des choses comme ça, et ce n'est qu'au bout d'un certain temps que c'est devenu que c'est passé dans les mains des ingénieurs et que c'est devenu un matériau de construction. Le premier grand, c'était Hennebic.
Et est-ce que ça a été admis tout de suite? Parce qu'on sait que les nouveautés provoquent parfois des réticences. Est-ce que le passage du béton au pont a été admis tout de suite?
Ah non, il a fallu un certain temps. D'abord parce que les ingénieurs n'ont pas tout de suite compris comment ça marchait.
Ah bon?
Il a fallu attendre pratiquement la fin du 19e et le début du 20e pour qu'on comprenne vraiment qu'il y ait des théories rationnelles du fonctionnement du béton armé.
Et pourquoi faisait-il des théories s'il y avait une pratique?
Oui, mais ça c'est la théorie. Quand j'étais en mathélème, on m'a appris que la pratique, la technique précède la science. Et donc, d'ailleurs, si on regarde l'histoire de la construction, on va voir que déjà les passerelles primitives, beaucoup, beaucoup de techniques qu'on emploie à une échelle complètement différente, étaient déjà connues Mais il y a très longtemps, on a des constructions extraordinaires en encorbellement, construites par des moines tibétains. Les premiers ponts suspendus étaient construits aussi au Tibet, avec des chaînes de fer.
J'ai trouvé, mais vous me démentez si je me trompe, que la construction des ponts est quand même très archaïque. On trouverait les premiers ponts au néolithique, c'est ça, c'est-à-dire entre 9000 et 2000 avant notre ère.
Alors, pont c'est le premier pont, c'est un tronc d'arbre qu'on jette en travers de la rivière. Et puis, c'est des ponts en dalles de pierre. Il y en a quelques-uns qui subsistent encore. Je ne sais plus trop où, mais je crois qu'il y en a en France, ou il y en a dans le pays de Galles ou en Angleterre, mais qui sont en fait des espèces de passages à très petite portée. On met des pierres dans un ruisseau, une pierre plate par-dessus, et ça fait un pont.
Donc, ça veut dire que vous n'appelleriez pont que ce qui est un ouvrage d'art?
Alors, c'est venu très progressivement. C'est devenu quand même très formalisé quand on a commencé à construire des voûtes.
C'est-à-dire les Romains avant ça?
Avant les Romains. Je crois que les premiers sont mésopotamiens. Mais les Romains, évidemment, les Étrusques, on en construit aussi. Mais les Romains ont vraiment, théorisé la construction des ouvrages, avec les traités de Vitruve en particulier. Et donc, et des ouvrages en maçonnerie, mais aussi en bois. Souvenez-vous que César a franchi le Rhin en construisant un pont en bois en 8 jours.
Vous dites les Étrusques, est-ce qu'il reste des ponts étrusques, des
constructions? Je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas.
Non, je vous dis ça parce qu'évidemment, nous avons l'idée que les Romains étaient des grands constructeurs et des génies en la matière, mais si les Étrusques les ont précédés, ça correspondra à ce que disait D.H. Lawrence, qui disait que les Romains avaient tout volé aux Étrusques.
C'est possible. Enfin, les Romains, par contre, l'ont généralisé à l'échelle de leur empire. Il fallait des ponts pour que les légions puissent se déplacer très rapidement. Il fallait des aqueducs pour amener l'eau au terme dans les villes.
Mais justement, il y a une question assez étrange. Bon, les Romains, c'est pas si ancien. La civilisation romaine n'est pas si ancienne. Est-ce qu'on sait, par exemple, si les Égyptiens utilisaient des ponts? Car Dieu sait, ils avaient un large fleuve qu'ils auraient eu besoin de traverser. Est-ce qu'on sait s'il y a eu des ponts dans l'Égypte ancienne?
Je ne crois pas. Je ne crois pas qu'il y en ait eu. Je n'en sais rien, mais je ne crois pas qu'il y en ait eu.
Ça vous paraît pas étrange? Je veux dire qu'en dehors de l'utilité, est-ce qu'il n'y a pas, en quelque sorte, un désir de pont, c'est-à-dire de communication? Est-ce que ça procède pas d'autre chose que de la pure utilité?
Mais je pense qu'il y avait d'autres moyens, c'est-à-dire les bateaux. Je crois que les barques égyptiennes, par contre, on en a de multiples traces. Et quand on regarde, je ne crois pas, la construction égyptienne n'a pas de voûte, à ma connaissance. Donc je ne suis pas tout à fait sûr qu'il y ait eu des véritables ponts.
Alors pour en venir à la technique de manière plus générale, est-ce qu'il y a une raison pourquoi on choisit plutôt un pont suspendu, un pont à auban, un pont à arc? Est-ce que l'esthétique entre en ligne de compte ou est-ce qu'il y a des raisons techniques impératives?
Il y a des raisons techniques impératives, c'est le poids. Plus la portée, c'est-à-dire la distance entre les appuis. Pour un pont suspendu, c'est de la distance entre les pylônes. Mmh. Plus elle est grande, plus il faut une structure extrêmement légère. Et donc c'est la raison pour laquelle on va, d'abord au point de vue des matériaux, on va passer progressivement du béton, qui est relativement lourd, ce qu'on appelle les ossatures mixtes, où on associe du béton et de l'acier, et pour les grandes portées, de l'acier. Et pour à partir de, je dirais, de 200 mètres à peu près, mais il n'y a pas de limite figée, quand je dis 200 mètres, c'est entre 200 et 300 mètres, on fait plutôt des ponts à câbles, parce que les câbles sont les structures les plus efficaces pour transmettre des charges. Parce que la résistance à rupture, la résistance d'un acier de câble est beaucoup plus grande que celle d'une tôle. Parce que l'acier d'un câble, les fils sont laminés, ce qui oriente les cristaux d'acier et qui donne une très grande résistance. Donc en gros, la résistance d'un câble, c'est 4 ou 5 fois celle d'une tôle, sauf les tôles d'acier spéciaux, etc. Mais en gros, c'est l'échelle. En outre, le câble, lui, il est tout droit. Il est soumis à son poids près, et donc il reprend directement une charge, sans flexion. Alors que les structures qui travaillent comme des poutres, travaillent en flexion, c'est-à-dire que vous avez une partie de la poutre, quand c'est une travée isostatique, qui est une travée simple entre deux appuis, la partie supérieure va travailler en compression, la partie inférieure en traction. Et vis-à-vis de la flexion, ce qui est entre les deux, qui reprend ce qu'on appelle l'effort tranchant, n'est pas très efficace. Donc vous perdez beaucoup de matière, vous avez besoin de beaucoup de matière pour transmettre les charges, alors qu'un câble le transmet directement.
L'invention de l'acier date de quand ?
Milieu du 19e siècle.
Et on a commencé immédiatement à faire des ponts en acier ?
Assez rapidement.
Car il y a eu des ponts de fer avant ça, n'est-ce pas ?
Alors d'abord, il y a eu des ponts de fonte.
De fonte.
Les premiers ponts construits en Angleterre. Je ne parle pas des ponts suspendus à chaîne de fer des Tibétains et des Chinois, mais les premiers ponts, ce qu'on a métalliques modernes, c'est de l'Angleterre. C'est vers 1770. C'est ce qu'on appelle le Coalbrookdale Bridge, qui est un pont qui a été construit par un sidérurgiste pour amener ses ouvriers à l'usine. Il vivait d'un côté, il a fait un pont en fonte. Et comme souvent, il a commencé à travailler à l'imitation des matériaux antérieurs, c'est-à-dire de la pierre. Et donc, il a fait un pont en arc.
Est-ce qu'on sait, dans l'histoire de la construction des ponts, s'il y a eu de grosses avanies, justement, et des déconvenues, des constructions qui sont très mal passées à cause de ça, à cause de l'inadaptation ou d'un certain manque d'imagination?
Oh, il y en a eu énormément. D'abord, vous avez beaucoup de ponts qui se sont effondrés, des ponts romains, qui se sont effondrés par ce qu'on appelle l'affouillement. C'est-à-dire que quand il y a des grandes crues, le sol qui est sous les fondations du pont est délavé, entraîné, et le pont s'écroule. On a eu en France un exemple avec l'effondrement du pont de Tours en 1978, si mes souvenirs sont bons. Et puis, on a eu, au moment de l'épopée des ponts à câbles, au 19e siècle, beaucoup de ponts qui ont été détruits par le vent. Des ponts suspendus, emportés par le vent, parce que les ingénieurs n'ont pas compris au début le rôle du tablier. C'est-à-dire, le tablier, c'est ce où on roule. Les voitures roulent sur une structure qui est le tablier, qui est elle-même portée par les grands câbles de suspension, par l'intermédiaire de suspente verticale. Et dans la mesure où les charges étaient prises par les câbles, eh bien, au début, sauf quelques ingénieurs remarquables comme Telford en Angleterre, les gens pensaient qu'il suffisait de faire des tabliers très minces. Mais c'est le tablier qui va résister à l'action transversale du vent quand il y a des tempêtes. Et ceux qui n'avaient pas un tablier assez résistant se sont écroulés. Il y en a eu en France, à La Roche-Bernard, pour d'autres raisons aussi, à la Basse-Chaîne, à Angers.
D'ailleurs, expliquez-moi une chose pour moi très mystérieuse. Comment, quand on construit, et Dieu sait que vous avez construit un long pont, par exemple le viaduc de Millau, comment est-ce qu'on arrive Peut-être que maintenant, je peux le comprendre avec les techniques modernes, mais comment est-ce qu'on arrivait à faire se rejoindre les éléments du tablier en partant des côtés de la Terre dans une espèce de vide comme ça et que ça arrive parfaitement à se rejoindre?
Alors, d'abord, ça n'arrive pas exactement parfaitement à se rejoindre. Il faut faire quelques ajustements à l'arrivée parce que la précision absolue n'existe pas.
Mais comment on fait des ajustements sur des matières aussi lourdes et aussi...
Quand c'est un pont suspendu, on va tirer un petit peu sur les haubans. À l'échelle des grandes portées, le pont est un spaghetti très mou. Si vous voulez, quand vous avez... je ne parle pas du Vic de Millau, mais si je prends le pont de Normandie, par exemple, si le pont est un petit peu plus bas que prévu, s'il avait été, en fait, il a été construit dans une tolérance d'à peu près 10 cm. Mais s'il est un petit peu trop bas, on va régler les haubans. C'est-à-dire qu'on va prendre des vérins et on va raccourcir un peu le hauban. On ne le surtend pas, parce que le pont est tellement souple à l'échelle. Vous savez, le fléau du pont de Normandie, c'est 428 mètres. Le tablier fait 3 mètres d'épaisseur, donc il est très souple. Je vais vous raconter une petite anecdote. Bertrand de Roubaix, qui était le chef de projet du pont de Normandie, moi j'étais le concepteur, Bertrand de Roubaix a fait visiter l'ouvrage une fois fini à l'assureur de la construction, qui lui a dit, mais maintenant que le pont est fini, est-ce que vous allez enlever les ficelles qui ont servi à le construire? Et Bertrand de Roubaix, lui, qui était un pince sans rire, lui a répondu, dès que vous me signez le contrat d'assurance. En fait, le pont, il ne tient que par ses haubans. Et quand on a besoin de le relever, ce qu'on peut dire, en gros, pour donner une image, c'est qu'on fait grimper le tablier le long des haubans.
Ça veut dire que c'est plus difficile à régler pour les ponts à piliers, parce qu'il peut...
Ah oui, oui. Les ponts courts sont beaucoup plus difficiles à régler. Mais on a quand même des instruments de mesure, les Romains en avaient. Imaginez quand même que les aqueducs romains, les conduites d'eau qui amenaient l'eau dans les villes, étaient réglées avec une pente à peu près régulière sur toute la longueur. Ça veut dire qu'ils étaient déjà capables, eux, de faire de la topographie et de prévoir exactement le nivellement de leurs aqueducs.
D'ailleurs, dans ce métier qui est le vôtre et qui nécessite tellement de précision et d'exactitude et qui utilise des instruments très précis, j'ai vu qu'on utilisait maintenant le GPS, Dieu sait comment, mais on l'utilise. Est-ce qu'il y a aussi un concours de l'humain dans le sens les bouts de ficelle? Est-ce qu'il vous est arrivé parfois de rattraper quelque chose contre la technique ou alors qu'il vous manquait...
C'est pas contre la technique, c'est en utilisant une autre technique. C'est-à-dire que le bout de ficelle, ça dépend un petit peu. Enfin, quand c'est des grands ponts, en général, il y a toujours des erreurs. Il se produit toujours des erreurs, il y a toujours des problèmes qui sont mal prévus ou à un moment, il y a eu une erreur sur le chantier, ça arrive. Bon. Et donc, on fait face, mais malgré tout, pour les ouvrages, et plus ils sont grands, plus on a des équipes, on a tout un système. On fait d'abord le projet, ça se fait pas, c'est pas l'image du gars qui prend son crayon et qui dessine le pont, ça c'est une vaste fumisterie. On fait d'abord des esquisses préliminaires, puis un avant-projet, un projet détaillé, et puis après on passe au projet d'exécution. Donc on a beaucoup d'étapes et on a des systèmes de vérification. Ce qui ne veut pas dire qu'on va pas avoir des petits pépins, on va pas, par exemple, avoir le tablier qui est un peu plus lourd que prévu. Donc, justement, comme vous le disiez tout à l'heure, il va se retrouver un peu plus bas que prévu et il va falloir faire des corrections.
Nous allons maintenant entendre Fréhel dans Le Pont Noir. C'est une chanson de 1933 dont les auteurs sont Raoul Moretti et Jean Boyer.
Route de Saint-Cloud, sous le pont noir, elle se tient matin et soir. La vieille radeuse, aux yeux flétris, y a trop de lumière en plein Paris. Elle fait maintenant les environs dans les Renault et les Citroën. Sous le pont noir, route de Saint-Cloud, y a pas besoin d'être une poule de luxe. On n'y voit rien, mais rien du tout. La clientèle se laisse monter le cou. Naturellement, c'est là-dessous qu'on s'embusque quand ça ne prend plus sur le boulevard Rochechouart. Et c'est pourquoi, sous le pont noir, les sans-business sont toujours un espoir.
Michel Virlogeux, je crois que j'ai oublié de vous demander la chose la plus évidente, c'est vous construisez des ponts pour qui? C'est-à-dire vous les construisez, vous êtes ingénieur, mais vous avez une agence, vous travaillez pour des gouvernements, comment ça se passe?
Alors, j'ai commencé ma carrière en Tunisie pendant 3 ans, mais plutôt comme un ingénieur routier, faisant de la planification routière aussi. Puis, je suis rentré au CETRA, qui est le service d'études techniques des routes et autoroutes, enfin, qui était, puisque tout a changé maintenant, et où c'était dans une administration où Au début, j'avais une petite équipe, puis une équipe de plus en plus grosse. Et donc, pendant à peu près une vingtaine d'années, avec mon équipe, on était soit chargé de contrôler un certain nombre de projets qui sortaient, soit de faire nous-mêmes une grande partie des projets, des ponts qu'on a fait en France pendant cette époque. Puis, j'ai quitté l'administration en janvier 95, parce que l'évolution de du ministère de l'équipement ne me satisfaisait plus du tout. Et puis, je voulais surtout travailler sur le viaduc de Millau. Pour cela, il fallait partir.
Et donc, c'était une commande publique.
Oui. Mais on va y revenir un tout petit peu. Donc, moi, je me suis établi à mon compte là. Et je travaille tout seul avec une secrétaire. Mais évidemment, je ne vais pas faire un pour tout seul.
C'est comment ça, vous n'avez pas une agence avec 100 personnes?
Non, pas du tout. Mais par contre, comme je connais plein beaucoup de gens, à chaque fois, on crée des équipes. Alors, soit je suis appelé par un client comme expert indépendant, ce qui a été le cas, par exemple, pour le troisième pont sur le Tage à Lisbonne. Mais rapidement, mon rôle a changé, puisqu'à ce moment-là, on a été chargé de faire le contrôle pour le compte de l'administration portugaise. Donc là, j'ai fait appel à deux bureaux d'études amis. Et donc, on a créé une équipe avec ces deux bureaux d'études et moi. Et là, on a fait le travail. Alors, je peux travailler directement pour une administration, pour un bureau d'études quand on répond à un concours de conception, ou pour une entreprise quand c'est de la conception-construction, ou éventuellement intervenir dans des affaires, je dirais, plus comme expert, y compris dans des affaires contentieuses, qui sont malheureusement des affaires qui occupent une partie du temps des ingénieurs.
Alors, il y a une chose dans le temps des ingénieurs et de la construction des ponts qui est un peu mystérieuse pour moi, c'est l'architecte. Je ne comprends pas bien dans la construction d'un pont ce que vous faites, vous, ingénieur, relativement à un architecte. Est-ce qu'un architecte intervient? Si oui, à quoi ça sert? Est-ce que ça veut dire qu'un pont a besoin d'un architecte pour être beau? Enfin, toutes ces questions-là.
Moi, je travaille presque toujours avec un architecte. Mais il n'est pas question de travailler avec des architectes qui veulent faire des choses fantaisistes. Pour moi, la conception de l'ouvrage doit être guidée par l'organisation des charges, l'organisation des efforts, c'est-à-dire la façon dont on va assurer le fonctionnement de la structure. L'un des objectifs essentiels pour la réussite d'un ouvrage, pour qu'il soit beau, c'est qu'il soit bien adapté à son site. Ça, c'est la première condition. La beauté intrinsèque viendra forcément derrière. Mais d'abord, c'est l'inscription dans le site, l'adaptation de l'ouvrage à son site.
Mais par exemple, pour le viaduc de Millau, comment pouvez-vous juger que c'est plus ou moins adapté au site?
Eh bien, d'abord, pour commencer, il faut que l'ouvrage soit assez mince pour ne pas obturer le site. La vallée est très profonde, 275 mètres. Enfin, il y a à peu près 275 mètres entre le niveau de l'eau et le tablier. Donc, il ne faut pas qu'il y ait trop d'appui. Donc, il faut limiter le nombre des appuis. Alors, le raisonnement, il est quand même assez simple. Je veux un ouvrage mince pour qu'il ne fasse pas massif. J'ai des grandes portées. Il faut des câbles. Donc, ça doit être un pont à auban, pour moi. Quand je vois un site, je pense être globalement capable... Je vois l'ouvrage, si vous voulez. Et je dirais que je n'ai pas besoin d'un architecte pour le voir, ce qui ne veut pas dire que je n'ai pas besoin d'un architecte pour travailler derrière.
Mais l'architecte sert à quoi?
Alors, j'y arrive. Moi, par contre, je ne suis pas capable de travailler le détail des formes pour faire jouer les ombres et la lumière. Il y a des tas de choses. Et, si vous voulez, j'ai travaillé très souvent avec un architecte qui n'est plus là, malheureusement, qui est Charles Lavigne. On a fait, je ne sais pas, une cinquantaine de ponts ensemble, probablement. Nous nous entendions très bien et nous nous comprenions à demi-mot. Moi, je n'irais pas concevoir un bâtiment qui est essentiellement conçu pour la vie à l'intérieur et donc des aspects beaucoup plus sociaux. Là, ce qui est important, c'est de transférer les charges et d'avoir un comportement dynamique sain.
Quand vous parliez d'ombre et de lumière à l'instant, il ne s'agissait pas d'esthétique, il s'agissait de...
Si.
C'était pas l'ombre qui se projette sur le pont ou les voitures.
Non. C'est bien le jeu de la lumière.
Mais ça, par exemple, en quoi l'architecte peut vous guider? Il y a des haubans, ils vont projeter...
Ah oui, mais d'accord, mais la forme de détail des piles, par exemple, c'est pas du tout ça. Pour donner un exemple, je prends l'exemple de Millau, puisque il est très connu. Bon, le projet avec les 7 pylônes, le pont auban à 7 pylônes, il était déjà dessiné avant que des architectes interviennent. Par contre, quand on a travaillé avec Foster, il y a un certain nombre de choses qui ont été aménagées. D'abord, pour que ça aille bien marcher, il fallait que l'architecte et l'ingénieur aient les mêmes objectifs, ce qui était une relative simplicité une légèreté, et sa Foster a toujours travaillé dans ce domaine de cette façon. Par exemple, il voulait que les piles donnent l'impression d'émerger du sol. Bon, ça c'est facile à traiter, c'est-à-dire que les semelles de fondation sont enterrées. Il a voulu, ce qui est beaucoup plus difficile, que le tablier donne l'impression de rentrer dans les collines. Donc il a fallu qu'on organise les culées de façon...
Qu'est-ce que c'est une culée ?
Une culée, c'est l'extrémité. C'est ce qui va relier le bout du pont et le terrain. Hein, le tablier, le pont, au bout, il s'appuie sur un appui particulier qui est, lui, lié au terrain de l'autre côté et qui a des fonctions spéciales. Il faut récupérer la flotte, il y a les barrières de sécurité qui changent, on a les barrières du pont, derrière on a d'autres types de barrières. Donc on a tout un tas de fonctions là qu'il faut organiser et ça a été plus difficile. Et il y a eu, pour arriver à des formes particulièrement élégantes, qui en même temps devaient être facilement constructibles, donc avec des moyens industriels, pour que le pont ne coûte pas des folies, eh bien il y a eu, je crois, une quarantaine de maquettes qui représentaient à la fois une pile, un tronçon de tablier et un pylône. Pour apprécier vraiment les formes. Il y en a eu à peu près 45.
Quand vous disiez, Michel Vienlejeu, que vous n'étiez pas pour les choses fantaisistes, ça veut dire que si un architecte venait vous proposer de refaire le pont Charles à Prague, c'est-à-dire avec des statues baroques sur le pont, vous diriez non ?
Attendez, le pont Charles, il est de son époque.
Mais qu'est-ce qui empêcherait qu'on vous propose... Ça veut dire que vous êtes contre l'ornement ?
Non, je ne suis pas contre... Je suis pas très chaud pour l'ornement. Hein. Je ne suis pas très chaud, pour être franc.
Pourquoi ?
Ben parce que, si vous voulez, je pense qu'on est capable de faire des ouvrages qui parlent par leur structure elle-même. Je n'imagine pas une seconde de mettre des sculptures sur le viaduc de Millau.
Non, ça j'imagine, mais dans un pont de ville, par exemple à Istanbul où vous venez de construire un pont, est-ce que si on...
Alors, il n'est pas à Istanbul, le pont il est tout près du Bosphore, il est à une échelle, il est encore plus grand que Millau.
Il est encore plus grand que Millau.
Donc
si on vous demandait un pont de ville, est-ce que vous refuseriez par exemple, on a construit peut-être le pont le plus récent à Paris, la passerelle Charles de Gaulle qui est très basse et très plate et sans aucun ornement. Vous auriez fait ça ?
Alors, bon, moi j'aurais fait certainement un ouvrage différent. Hein. Je crois que chaque ingénieur fait un ouvrage différent.
Si vous voulez, Est-ce que vous, pour simplifier ma question, est-ce que vous pensez que l'ornement est une injure à votre travail d'ingénieur ?
Pas forcément. Mais je veux dire que, si vous voulez, l'ornement ne doit pas prendre le pas. C'est-à-dire que, je pense personnellement que les ouvrages doivent se suffire à eux-mêmes, hein, vraiment. Je n'ai concouru ni pour le pont Charles de Gaulle, ni pour les passerelles Simone de Beauvoir et celle des Tuileries, comment elle s'appelle déjà ?
La passerelle des Arts ?
Non. Ni pour la passerelle des Arts, qui a été faite par Arech, celle qui a été faite par Mimram.
Et pourquoi n'avez-vous pas concouru à Paris ?
Ah ben parce que, alors, pour les premières, parce que j'étais au CETRA, et donc je ne pouvais pas. J'étais dans l'administration, je ne pouvais pas. Et pour l'autre, ben, si vous voulez, malheureusement, pour la passerelle Simone de Beauvoir, j'étais en équipe avec... Jean Nouvel, qui venait de mettre la ville de Paris au tribunal à cause du
grand stade.
Donc, pour des raisons curieuses, le petit architecte et le petit ingénieur n'ont pas été qualifiés. Allez donc savoir pourquoi.
Michel Vienlejeu, pour finir, je voudrais vous demander si pour vous, le secret professionnel des ponts, ça n'est pas finalement que les hommes cherchent à créer des ponts sous toutes les formes possibles, parce qu'au fond, un bateau qui fait une liaison maritime, c'est une forme de pont flottant. Un avion qui monte et qui descend, c'est un pont volant. Est-ce qu'au fond, le pont n'est pas la seule, peut-être, forme d'idéal réalisé de l'homme ?
Il y en a beaucoup de formes réalisées. Le pont a un très gros avantage pour un ingénieur, c'est que c'est quand même quelque chose qui reste à l'échelle d'une personne. Un avion, c'est impensable. Un avion, vous ne pouvez plus faire un avion aujourd'hui sans des équipes énormes. L'automobile, c'est pareil. Le pont, ça reste à l'échelle d'une personne ou de quelques personnes. Et ça, c'est quand même extraordinaire.
C'était Secret Professionnel, le 232e. La semaine prochaine, je parlerai du secret professionnel de la rhétorique des candidats à l'élection présidentielle américaine. Réalisation Clotilde Pivin. Attaché d'émission Daphné Abgral, prise de son Philippe Palares, dans un instant, une saison au théâtre avec Joël Gaillot.